France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, c'est un portrait de famille que je vous propose. Celui de Johann Strauss, père et fils réunis dans une très jolie biographie par Alain Duhaut, qui est mon invité. Une occasion d'accueillir ce grand amoureux de l'opéra, par ailleurs un de nos plus fins poètes, et de célébrer avec lui la musique viennoise à une semaine du concert du Nouvel An. Alain Duhaut à ce micro dans quelques minutes. En fin d'émission, mes petits cadeaux de Noël musicaux. Et pour commencer, puisqu'il a beaucoup neigé en ce mois de décembre, eh bien chantons-la cette neige qui enchante les vacanciers.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Sitting by the fire's cozy glow, he don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the storm. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Et voilà une neige américaine qui n'est somme toute pas très différente de la neige française. Vous avez reconnu la voix de Frank Sinatra avec l'orchestre d'Alex Sordhal.
France Musique, étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Mais je vous l'ai dit, nous allons aujourd'hui célébrer la musique viennoise, en tout cas ses deux figures les plus emblématiques, Johann Strauss, père et fils, entre qui d'ailleurs tout n'allait pas comme sur des roulettes. Nous allons le voir aujourd'hui avec mon invité qui vient de publier un très joli Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Duhaut.
Thank you.
Le galop des bandits de Johann Strauss-Fils, enregistré au cours du concert du Nouvel An 1999 sous la baguette de Laurine Mazel. Bonjour Alain Duhau.
Bonjour Benoît.
On a déjà plein de choses à dire sur ce morceau, oui. Mais quand on a préparé l'émission, on s'est dit, bon, on va privilégier les deux grands chefs, on y reviendra, qui étaient Boskovski et Kleiber. Néanmoins, Mazel, dans ce répertoire viennois, il est très à l'aise aussi.
Mazel, il est très à l'aise, d'abord parce qu'il était violoniste.
Ah, voilà.
Et donc, le fait qu'il était violoniste l'a mis en contact d'emblée avec cette matière musicale particulière que les Strauss ont inventée. Et puis, il a ce côté très mitteleuropa. Il est né à Paris, il a vécu en Allemagne et en Autriche, et puis aux États-Unis. C'est une sorte de voyageur, et un voyageur de l'imaginaire. Et c'est pourquoi, pour bien jouer ses œuvres, il faut justement ne pas être dans quelque chose de cadré, de codifié. Ouais. Il faut avoir cette liberté, car c'est la liberté qu'on a trouvée dans le galop, mais qu'on trouve dans la polka, et surtout dans la valse.
Oui,
car la valse, c'est la liberté. Pourquoi ? Très simplement, avant, qu'est-ce qui se passe ? Avant la danse, c'est le menuet. Le menuet, on ne se touche pas, on suit des lignes verticales, horizontales, on voit venir à soi quelqu'un qu'on n'a pas choisi, on le salue et on se déplace comme ça.
Et tout
la
est
valse,
codifié.
C'est tout à fait autre chose. La valse, on choisit sa cavalière ou son cavalier. Enfin, c'est le cavalier qui choisit sa cavalière. Et puis, il l'emmène où il veut à travers la salle de bal. C'est la liberté.
Il la fait tourner et il l'enivre, ça, évidemment. On va y revenir. Ce galop des bandits, vous l'aimez spécialement?
Oui, alors, j'aime beaucoup ce galop des bandits. Comme en général, les galops, c'est tiré, il faut préciser, d'une opérette de Johann Strauss-Fils, puisque les opérettes sont toutes de Johann Strauss-Fils, qui s'appelle Prince Mathusalem. Les opérettes de Johann Strauss sont pas très connues, mis à part La Chauve-Souris. Et pourtant, si elles ne sont pas parfaites, il y a à chaque fois un petit joyau. Par exemple, dans une opérette qui n'est pas connue, qui s'appelle Le Mouchoir de la Reine, il y a Rose du Sud, qui est pour moi une des plus belles valses.
On l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure, mais il y a toujours chez Strauss, effectivement, ce va-et-vient entre le répertoire de danse et la musique de théâtre. Il puise dans l'une pour l'autre et inversement. En tout cas, Alain Duhau, merci d'avoir écrit ce livre qui se lit vraiment avec beaucoup de plaisir, comme un petit roman viennois. On plonge dans ce monde, c'est très bien écrit, ce qui est toujours plus agréable dans un livre sur la musique et pas si fréquent. Johann Strauss, père et fils, donc, mais en fait j'étais un petit peu surpris parce que pour moi vous êtes un homme de l'opéra, du grand opéra, des divas, vous avez écrit des livres merveilleux sur Callas, vous avez écrit un dictionnaire amoureux de l'opéra, et même si je sais que vos goûts sont très éclectiques, je n'imaginais pas que vous écririez un jour un livre vraiment sur les Strauss et la musique viennoise.
Vous n'imaginiez pas que je pouvais être aussi un homme de plaisir, mais vous savez, j'aime le plaisir sous toutes ses formes, et je pense que c'est la concrétion absolue du plaisir viennois qu'on retrouve chez les Strauss. D'abord, c'est tout le 19e siècle. Il faut voir que le père Strauss naît en 1804, le fils meurt en 1899. Donc c'est un siècle de musique à Vienne et d'esprit. Et de ce mot qu'on n'arrive pas à traduire, cette fameuse Gemütlichkeit, c'est une manière de se sentir bien, léger, cette fameuse crème dont il ne faut pas abuser. Mais cette légèreté, ce plaisir dans notre monde où on est très corseté, où quand on vous dit bonjour le matin, il faut dire ça va pas très bien, parce que si on dit ça va bien, on a l'impression d'insulter tous les qui vous le disent. De temps en temps, finalement, se faire plaisir et exalter ce plaisir, ça m'a semblé tout à fait nécessaire. On est dans un monde qui manque de légèreté et les Strauss ont apporté la légèreté.
Bah en tout cas, merci de l'avoir fait pour nous.
Ça a été
nous.
Un grand plaisir pour moi, je vais vous dire, parce que ça m'a permis...
Mais on vous a poussé à le faire, soyons honnêtes, ou vraiment vous aviez envie de faire ce livre-là?
Pas du tout, je peux vous dire très bien, vous connaissez cette collection dirigée par Bertrand d'Hermoncourt.
Chez Actes Sud,
voilà, Classica. J'avais publié un Chopin et un Schumann, c'était sérieux.
Oui.
Et Bertrand d'Hermoncourt me dit, j'aimerais bien que tu me fasses un nouveau livre, sur quoi? Et je lui ai dit... je vais te proposer un truc, ça va peut-être pas t'intéresser. Les Strauss m'a dit, ça m'intéresse tout à fait. Et voilà comment ça s'est fait.
Alors on va revenir évidemment à Strauss père et Strauss fils, raconter un peu leur histoire avec vous, Alain Duhau. Mais on va d'abord remonter un petit peu dans vos tendres, très jeunes années, peut-être, pour voir un peu comment vous en êtes arrivé jusque-là. Et je sais pas ce qu'on écoutait d'ailleurs dans votre petite enfance, mais en tout cas, puisqu'on fait une émission de musique légère, j'ai ressorti cette chanson que vous aimez bien et que nous avons tous écouté petit.
Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents.
Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Je pourrais, attention, m'appeler sans prétention, machin chose ou bien Tartempion. On ne l'a pas voulu, mais je suis convaincu d'avoir un nom qui est rudement beau. Mais en vérité, je le dis sans me flatter, ça me fait une personnalité. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant et lâche.
De toute façon, nous avons tous un peu grandi avec lui en oui. France, Fernandel. Mais là, vous m'avez quand même encore plus surpris qu'avec les Strauss, Alain Duo. Que voilà, vous m'avez même dit hors micro, c'est un peu comme Callas, carrément.
Oui, c'est-à-dire que... Non, je dis c'est un peu comme Callas, c'est-à-dire que quand on l'entend, on voit son visage, comme quand on entend deux phrases de Callas, on voit... Le visage de Callas, ça c'est tout à fait étonnant, ces gens qui habitent complètement une sonorité par rapport à ce qu'ils sont, à la manière dont ils se présentent en scène ou au cinéma. Et là, Fernandel...
Vous êtes né à Paris d'une famille bretonne qui n'était pas spécialement une famille de lyricomanes.
Pas du tout. Mes parents n'étaient jamais à l'opéra avant que je les y emmène.
Voilà, exactement. Et alors on écoutait...
Mais ma mère a chanté quand même. Quand elle était jeune, elle a chanté, figurez-vous, elle chantait du Reynaldo Hahn, Salgavo.
Ah bah quand même, alors.
Parce qu'elle avait une amie qui chantait, on lui a offert de venir avec son amie, et puis la prof lui a dit, est-ce que vous avez une voix aussi? Elle a commencé à chanter, et elle a chanté pendant 2 ans, et pour ses 80 ans, je l'ai ramené Salgavo, et on lui a chanté des mélodies de Reynaldo Hahn, dont une qui était très célèbre, dont je me souviens plus, mais qu'elle chantait tout le temps, Si mes vers avaient des ailes. Vers avaient des ailes, elle était toute émue.
Et donc, Fernandel, ça faisait plutôt partie des choses qu'on écoutait chez les duos quand vous étiez petit?
Oui, oui. Alors, oui, on les écoutait. Et puis moi, j'ai tout de suite été passionné de cinéma. Ouais. Et je suis tombé un jour par hasard sur une rétrospective Fernandel. Ouais. Et j'ai trouvé ce personnage tout à fait extraordinaire. Vous savez, vous avez dit justement que j'aime l'opéra. Quand on aime l'opéra, ça veut dire qu'on aime des personnages qui sont très forts. À l'opéra, les caractères des personnages sont soulignés. C'est une sorte de sémaphore. Ouais. Eh bien, Fernandel, c'est la même chose. Dès qu'il entre en scène, dès qu'on le voit à l'écran, tout d'un coup, on comprend ce qu'il va être, ce qu'il va déployer. Il y a cette personnalité qui correspond aussi à la voix parlée, et évidemment, quand je l'ai entendu, la voix chantée. Je peux même vous avouer une chose, c'est que avec Ignace, il m'est arrivé un petit problème avec l'éducation nationale, il y a prescription. J'étais professeur.
Professeur.
Voilà, tout jeune professeur. Et puis, un jour, j'avais vu sur le programme de télévision qu'on donnait Ignace l'après-midi à l'heure où j'avais cours. Je me suis fait porter malade.
Pour aller voir Fernandel.
J'ai été voir Fernandel. Le problème, c'est que ça s'est su et que j'ai eu quelques problèmes. Mais bon, je n'ai pas regretté.
Vous étiez donc un jeune professeur à la fois passionné donc de musique et de poésie qui était votre véritable vocation.
Hein. La poésie était le point de départ de tout. Vous savez, j'ai coutume de dire que j'ai deux jambes, la poésie et la musique. Ouais. Mais je m'appuie souvent plus sur la jambe de la poésie et je cherche dans la musique justement l'équivalent de la poésie.
Ouais. Et la musique, elle était arrivée comment, puisqu'elle n'était pas dans la famille tellement présente?
Non, elle n'était pas. Mes parents étaient abonnés à une chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, dirais-je, qui est la guilde du disque. Et on écoutait le dimanche, vers midi, avant de passer à table, on écoutait le disque, la guilde du disque. Je me souviens d'ailleurs très précisément d'un disque gris, un peu granuleux, où il y avait une symphonie qui était donc une symphonie de Beethoven, qui était la sixième symphonie, ouais. et par un nom que je n'arrivais pas à prononcer. J'ai retrouvé ce disque dans le grenier de mon père bien des années après, et c'était Wilhelm Furtwängler. C'était pas mal.
C'était pas mal, effectivement. Mais c'est bien aussi l'idée qu'on écoutait des disques en voilà. famille avant de passer
c'est,
à table.
C'est au fond l'équivalent ouais. de ce que les Autrichiens font avec la Hausmusik. Ouais. Eux, ils la jouent. Ouais. Nous, en France, comme dirait Charles Trenet, on joue de l'électrophone.
Et donc, vous êtes devenu un jeune poète, assez vite remarqué. Je me rappelle, j'ai quelques anthologies de la jeune poésie française de la fin des années 70, où vous figurez déjà en bonne place. Et donc, le poète que vous étiez s'est fait connaître un peu plus du grand public grâce à un livre où il était beaucoup question de musique, puisque ça s'appelait Coloratour, voilà. C'est un de vos premiers recueils, ou un de vos premiers ensembles de poèmes,
c'est,
plutôt.
C'est le premier livre de poèmes. Auparavant, vous savez, il y a ces petits livres qu'on appelle les plaquettes de poésie, qu'on appelait, je ne sais plus si ça se publie maintenant, mais là, c'est le premier livre publié chez un grand éditeur, chez Gallimard, et qui m'a valu évidemment une petite notoriété, puisque j'ai été invité à une émission qui, à l'époque, était très célèbre, Apostrophe.
Voilà, c'est la grande époque d'Apostrophe.
Et donc, en mars 78... je suis reçu par Bernard Pivot, Apostrophe. C'était tout à fait excellent parce que j'étais complètement terrorisé. Imaginez cette émission en direct pour parler d'une chose aussi intime que la poésie, mais aussi d'opéra, parce qu'il y avait un vrai rapport à l'opéra.
Il était question notamment de Callas, d'ailleurs.
Callas, bien sûr, il y avait un poème sur Callas qu'il m'a fait lire. Voilà. Et il a terminé, vous savez, comme il est toujours d'ailleurs passionné de football, notre ami Bernard Pivot, et il a terminé en disant... Allez les verts, V-E-R-S.
Alors depuis, Alain Duhaut, vous êtes devenu l'éminent journaliste musical, auteur d'un dictionnaire amoureux de l'opéra, entre autres, qu'on connaît bien aussi par la télévision. Mais vos poésies se suivent et elles sont même entrées dans la merveilleuse collection Poésie Gallimard.
J'en étais très fier, ça, vous savez, voilà. C'est un peu une sorte de petit panthéon. Ouais. Cette collection, c'est la reconnaissance, d'une part, de par la maison Gallimard, et disons, d'une part le monde poétique, on existe dans ce monde, et c'est surtout la possibilité d'être lu par les jeunes générations, parce que ça coûte 8 euros l'anthologie, alors que les livres sont trop chers, donc là ils ont 300 poèmes pour
Exactement.
8 euros, et ça c'est vraiment, enfin moi il se trouve qu'on m'a convié dans certaines universités pour parler de poésie, et depuis que la petite collection est parue, on m'a dit ça c'est bien, c'est pas cher.
Voilà, et donc votre vie continue à marcher avec ses deux pieds.
C'est indispensable, je pourrais pas ne pas écrire de poésie et je pourrais pas ne pas écouter de musique.
Voilà, mais c'est la poésie donc de la musique des Strauss qu'on va maintenant essayer de rechercher un peu ensemble avec une des premières valses, et une des plus célèbres d'ailleurs de Johann Strauss-Père, qui s'appelle Kettenbrückenwalzer.
Thank you.
Kettenbrücken Walzer de Johann Strauss-Pair par Willy Boskowski. Disons-en un mot tout de suite à
Willy Boskowski, c'est très important. Parce que c'est le grand interprète, c'est un violoniste, et comme l'était Johann Strauss, le père et le fils. Oui, et c'est très important parce que on entend à quel point le violon solo mène la danse, amène aussi les thèmes. Et il y a une identification de Boskowski qui a dirigé cet orchestre Johann Strauss, qui a perduré à la mort de Strauss, mais qui l'a dirigé pendant des décennies et qui s'est identifié. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne se rend plus compte, puisque le concert du Nouvel An est chaque année, vous le savez bien, Benoît, dirigé par un chef différent. Mais pendant des années, c'était Willy Boskowski qui donnait ce rendez-vous tous les ans.
Pratiquement tous les ans. Et là, évidemment, c'était une charmante valse, mais encore un peu dans l'esprit de ce qu'on appelle le Ländler.
D'où vient la valse.
Voilà, et que Schubert a beaucoup pratiqué, d'ailleurs, cette petite danse paysanne à trois temps.
Danse paysanne qu'on retrouve aussi dans la périphérie de Vienne, avec une musique populaire qu'on appelle la Schrammelmusik.
Voilà. Et c'est donc à partir de ce Ländler que tout d'un coup, le très talentueux Johann Strauss-Pair, qui est né donc au tout début du 19e siècle, va imposer partout en Europe cette première vogue de la valse.
Oui. Alors, cette valse, elle naît, je dirais, de manière un peu inopinée. Pourquoi ? Parce que, et en fait, tout vient des ce qu'on appelait les orchestres de pont. Il y avait sur les bateaux qui descendaient le Danube des mini-orchestres pour agrémenter la descente du Danube. Il y avait un violon, un alto, une sitar, parfois une clarinette qui était un instrument tout neuf à l'époque. Ouais. Et on jouait justement ces Ländler. Et puis, quand on arrivait à l'escale de Vienne, c'est une escale importante, et la famille Strauss habitait justement au bord du fleuve. Les parents tenaient une auberge qui n'était pas une auberge de luxe, mais enfin qui était une auberge, et là, eh bien, il fallait occuper ces musiciens et qui leur permettent de gagner quelques sous, donc ils jouaient ces Ländler, et puis, comme on l'en redemandait, eh bien, ils ont petit à petit ajouté des musiques un peu différentes grâce à l'initiative de plusieurs personnages dont Joseph Lanner a été sans doute un des marquants, puisque c'est lui qui a amené ce terme, terme de la valse, Walz, qui vient du verbe walzen, qui veut dire tourner en chantant.
Voilà, avec une succession de mélodies qui s'enchaînent les unes aux autres. Et il y a aussi d'ailleurs un très joli portrait dans votre livre de celui qui a été le premier employeur de Strauss et Lanner, qui s'appelait Michael Pammer, qui était un peu un ivrogne.
Pas un peu, totalement.
Mais qui faisait déjà danser tout Vienne à l'époque.
Il faisait danser tout Vienne, bien sûr, parce que tous les gens venaient pour s'encanailler aussi, d'une certaine manière. Alors, la seule différence, c'est que les pas étaient beaucoup plus rythmés, tout simplement parce que les sols n'étaient pas comme on les connaît, comme on les a connus ensuite, après le congrès de Vienne, puisque le congrès de Vienne joue un rôle important. Vous vous souvenez de la phrase « le congrès ne va pas, il danse »,
bien sûr.
Phrase du prince de Metternich, parce qu'on a ciré les parquets, et donc on pouvait se déplacer en dansant
glissant
de manière plus souple, tandis qu'auparavant ils étaient mal ajoutés, donc on sautait.
Voilà. Alors, en tout cas, Strauss et Lanner vont quitter l'orchestre de Michael Pammer, puis vont ensuite travailler ensemble, puis se fâcher un peu, et la mode de la valse va se répandre finalement à une vitesse assez extraordinaire.
Mais à une vitesse extraordinaire et de manière considérable. Il faut donner des chiffres. Il faut imaginer qu'il y a des salles. Il y a deux salles importantes. Le Sperl, qui peut accueillir 3000 personnes, et l'Apollo, qui peut en accueillir 4500. Vous imaginez ce que c'est, des salles qui peuvent accueillir 4500 danseurs. Et donc, ces gens viennent pour danser, mais des heures et des heures et des heures. Parce qu'il n'y a pas la télé, il n'y a pas le reste qui vous distrait. Donc, on passe la soirée à danser. Ça va jusqu'à 2h ou 3h du matin. Il faut des orchestres qui jouent en permanence.
Oui.
Et donc, on va créer des orchestres dans lesquels il y a des relais. Parce qu'évidemment, quand même, les musiciens ne jouent pas 6 heures de suite. Mais on va aussi fractionner l'harmonie intérieure de ces petits orchestres. Des petits orchestres, ils font au maximum 20 à 25 musiciens. Mais de manière à ce qu'ils tiennent en permanence toute la soirée et une partie de la nuit.
Et donc, Strauss-Pair, ça devient vite une entreprise, en fait, avec plusieurs orchestres qui se relaient continuellement.
À un moment, il a plus de 200 musiciens qui sont répartis dans les différents casinos de la ville, les différentes salles de danse. Et lui, il vient simplement en guest star, c'est-à-dire qu'il arrive sous les acclamations. Il joue quelques pièces qui ont été répétées auparavant, et puis il s'en va, c'est un de ses assistants qui prend la baguette, il va dans le deuxième endroit, troisième, quatrième,
exactement,
et il fait toute la nuit comme ça.
Alors il y a une phrase, d'ailleurs, vous parliez du congrès de Vienne, assez drôle dans ce livre, les valses de Strauss sont pour les Viennois ce que les victoires de Napoléon étaient pour les Français. Donc ça devient vraiment l'emblème de cette ville.
C'est l'emblème national.
Et Johann Strauss-Pair va conduire ses orchestres un peu partout en Europe, et la valse va prendre partout, mobiliser les foules et aussi d'ailleurs les grands musiciens. musicien, notamment à Paris où il joue devant Berlioz, Aubert, tous les musiciens, puis à la cour d'Angleterre.
Il y a un texte de Berlioz tout à fait intéressant où il dit « Si les musiciens français avaient la même dextérité et la même virtuosité pour jouer, on pourrait composer autrement. » C'est quand même assez étonnant, ça.
Oui. Et puis la cour d'Angleterre, où la jeune reine Victoria...
La reine Victoria, qu'on imagine simplement un monument de corsetage spirituel, elle fait venir Johann Strauss et il va jouer pour elle. Elle est folle de la Haydn Polka. Enfin bon.
Alors justement, tiens, à propos de Sperl, vous avez cité tout à l'heure ce haut lieu de la musique viennoise. On va écouter le Sperl Gallo.
Ah bah oui, ça c'est une des pièces célèbres parce qu'elles ont identifié justement le style de Johann Strauss-Sperl à ce lieu qui est, grâce à lui, grâce à ce gallo, devenu connu dans le monde entier.
Nous étions à nouveau au concert du Nouvel An ici avec Ricardo Muti, qui est d'ailleurs de retour cette année pour la cinquième fois.
C'est vous qui allez le présenter effectivement, dans
quelques jours, cher Alain Duo. Vous êtes ici pour votre livre sur Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse. Le père d'ailleurs, grand personnage entré dans l'histoire. Malheureusement, pour le très grand public, et notamment par exemple à travers le concert du Nouvel An, il est resté pratiquement que le compositeur de la marche de Radetzky, alors qu'il a un catalogue immense lui aussi. Il a été tellement éclipsé par son fils.
De très belles valses et polka, un sens rythmique formidable, parce que c'est vraiment là où il a fait la différence. Mais la marche de Radetzky, qui est un emblème politique, a tout écrasé, puisque maintenant, vous savez, je ne veux pas vous l'apprendre, que dans les trois bis obligatoires du concert Nouvel An, il y a d'abord le beau Danube bleu, ensuite un choix qui est différent chaque année, et la marche de Radetzky, parce que tous les Japonais veulent taper dans leur main.
Exactement. La marche de Radetzky, justement, on va en reparler, parce que si Johann Strauss-Sperl a été un peu éclipsé par le génie de son fils.
Aujourd'hui, quand on parle de Johann Strauss, on ne parle d'ailleurs que de Johann Strauss fils. Bien sûr. Et d'abord parce que le premier titre qui vient à l'esprit, c'est le beau Danube bleu.
Bien sûr. Mais tout ça avait de toute façon commencé dès l'époque dans un conflit assez violent entre le père et le fils. Et à l'origine de ce conflit, il y a la vie amoureuse du père avec sa femme et sa maîtresse qui était assez complexe.
C'était assez étonnant. Il s'était marié donc à une certaine Anna, une jeune femme, semble-t-il, très cultivée, très musicienne. Et puis, qui lui a donné un premier enfant. Et puis, il est tombé, on ne sait pas vraiment comment, en relation avec une fille qui était des mauvais quartiers, on va dire.
Voilà,
elle habitait dans la Kumpfgasse, qui était vraiment les bas quartiers de Vienne, s'appelait Émilie Trambusch. Et cette Émilie, eh bien, va le saisir de quelque manière, chacun peut l'imaginer, mais elle va le saisir de manière telle qu'à un certain moment, d'abord, il va lui donner à chaque fois un enfant. Quand Anna fait un enfant, quelques mois après, Émilie fait un enfant.
Il y a le même nombre des deux côtés. Il y a même un Johann. Hein.
Exactement.
On ne connaît pas celui-là.
Il y aura cinq enfants de Anna et cinq enfants d'Émilie. Mais évidemment, la tension est telle qu'à un certain moment, Anna va vouloir se venger. Voilà. Et avec le premier fils qu'elle a eu, le premier Johann, eh bien, elle va trouver l'instrument de sa vengeance, c'est-à-dire qu'elle va alors que le père avait dit qu'il ne voulait pas que ses enfants fassent de musique, elle va lui faire donner des leçons de musique en douce, elle va lui trouver des bons professeurs, et il va se révéler au violon et dans la composition, et c'est justement à 19 ans que tout va éclater, puisque avec la complicité de sa mère, il va donner un premier concert au casino Domayer, dans la périphérie de Vienne, et là, le lendemain, il y aura plusieurs articles très favorables à ce jeune garçon, dont un qui est terrible, qui résume la chose en disant « Adieu, Johann Strauss-père, bonjour, Johann Strauss-fils. »
Voilà. Mais le père, loin de rendre les armes et de saluer le génie, on peut dire, son fils, va très très mal prendre la chose. Il va rester totalement fâché.
Très très mal. Il prétendra d'ailleurs qu'il ne veut pas écouter une note de Johann Strauss-fils. On n'est pas sûr que ce soit vrai. Et on est à peu près assuré qu'il s'est fait communiquer des partitions. Mais il n'y a jamais eu de réconciliation, d'autant qu'il y a eu une dimension politique qui est venue s'ajouter.
Alors justement, cette marche de Radetzky que tout le monde connaît, c'est une marche composée par Johann Strauss-père en hommage en fait à un maréchal autrichien qui est, on peut dire, un contre-révolutionnaire dans cette période agitée.
Tout à fait.
Alors que le fils, lui, a des idées plutôt progressistes.
Oui, parce que c'est la jeunesse. Donc, quand on est jeune, on est plus ouvert à ces idées progressistes, semble-t-il. Et donc, il prend le drapeau de la jeunesse. Je mets beaucoup de guillemets révolutionnaires contre son père. Et donc, évidemment, ça ne fait qu'en rajouter. Et ce qui est terrible, c'est que le père va mourir très jeune, à 45 ans, au moment où il allait être reconnu pour cette marche de Radetzky, puisque c'était le retour du maréchal Radetzky. Et manque de chance, on met ça en répétition et il meurt avant.
Il y a d'ailleurs une anecdote que j'ai relevée dans votre livre, c'est l'opposition justement entre la marche de Radetzky de Johann Strauss-père et la marche de Rakowski de Berlioz, qui, elle, rend hommage.
Ben, c'est le contraire, justement. Oui. C'est deux partis pris différents, politiques, et deux musiques qui se croisent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour Berlioz, il en fait une musique hongroise, alors que c'est une musique qui est viennoise, même si elle est d'origine hongroise, mais on sait qu'il y a entre la Hongrie et Vienne des relations d'abord, parce que l'Empire était aussi hongrois, mais il y a des relations musicales aussi, puisqu'il y a toute une partie d'opérettes qu'on appelle les opérettes viennoises qui sont signées par des compositeurs hongrois.
Alors on va quand même écouter une grande valse maintenant, même si c'est toujours des dimensions immenses, on n'en peut pas en programmer aussi souvent qu'on voudrait.
Non, mais les grandes valses, c'est des petits poèmes symphoniques.
Voilà, c'est un petit poème symphonique, c'est ça que crée au fond Johann Strauss-fils, il donne la dimension vraiment symphonique à cette grande valse, avec l'introduction, le développement, la succession, le ruban comme ça de thèmes, la conclusion.
Mais parce que ce ne sont plus véritablement des valses faites pour être dansées, mais pour être écoutées. Ouais. Et ça vient avec l'évolution, mais on en parlera peut-être après, de la vie de Johann Strauss-fils, qui, à la différence de son père est un meneur d'orchestre pour le bal, tandis que lui, c'est un compositeur, et en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas de diriger pour le bal, c'est de composer.
Et vous avez une affection particulière pour Rose du Sud, qui vient d'une opérette d'ailleurs, elle
l'opérette
aussi.
L'opérette Mouchoir de la Reine, c'est pas l'opérette la plus connue,
on l'a dit
mais
tout à l'heure.
Cette valse, c'est d'une beauté, il y a une mélancolie, il y a cette Gemütlichkeit.
Voilà.
Thank you.
Rose du Sud, une des plus belles valses de Johann Strauss-Fils sous la direction de Willy Boskowski. Je suis avec Alain Duhaut pour évoquer maintenant donc le fils qui, comme son père, va commencer par parcourir l'Europe et conquérir une gloire tout à fait extraordinaire, même s'il n'est pas fou de voyage. Il va en Russie, il va en France. Oui. Et c'est d'ailleurs à Paris que le Beau Danube Bleu va devenir une œuvre célèbre.
Bah oui, parce que le Beau Danube Bleu a d'abord été un échec tout à fait étonnant. Alors il faut préciser pourquoi. On lui avait commandé cette pièce, c'est une chorale viennoise qui lui avait commandé cette pièce, parce qu'on voulait que ce soit chanté.
C'est même pour célébrer les éclairages de la ville
Exactement,
de Vienne.
Exactement, les éclairages, l'arrivée des éclairages au gaz.
Ça n'avait rien à voir avec Alors, le Danube.
Absolument rien à voir. Et donc celui qui lui avait commandé a aussi commandé un membre de la police qui faisait partie de la chorale, un petit poème pour célébrer ces éclairages au gaz. C'était des vers de Mirliton abominables. Et ça a fait tomber la pièce.
Voilà.
Alors, bon, il n'était pas à ça près, l'ami Johann Strauss. Donc, il s'est dit, ça pourra peut-être servir. Et effectivement, quand il était à Paris, eh bien, il a été aussitôt pour l'exposition universelle célébré. Et puis, un journaliste du Figaro lui a demandé de créer une valse spécialement pour Paris. Et il s'est souvenu, il avait dans ses malles ce Beau Danube Bleu, débarrassé des paroles, il l'a donné là, et ça a été bissé, trissé, et ça a été le point de départ de cette valse qui allait devenir l'emblème même, et aujourd'hui encore, Bien l'emblème sûr. Même de Johann Strauss.
Johann Strauss. Il y a un autre voyage assez étonnant que vous racontez dans ce livre, c'est le voyage en Amérique,
et
la réception à Boston, où il donne un concert avec un chœur, je crois, de
20 000 chanteurs, un orchestre de 2 000 musiciens, et ce qui est extraordinaire, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour donner le point de départ, il était donc sur une haute tour, il avait 10 chefs assistants qui le scrutaient à la jumelle pour retransmettre. On imagine comme ça devait être assez ensemble, tout cela. Et c'était un coup de canon qui donnait le point de départ. C'est tout à fait une autre chose.
D'ailleurs, il n'était pas enchanté, il n'avait pas envie d'y aller.
Non, il n'avait pas envie d'y aller, sauf que comme il avait un cachet qui était l'équivalent de 1 million d'euros aujourd'hui, ça lui a donné envie d'y aller. Il y est allé avec sa femme, son majordome, sa servante et son chien Terre-Neuve. Et c'est très important, le chien Terre-Neuve. Il y a une jolie anecdote que j'ai trouvée qui m'a beaucoup amusé. C'est que toutes les dames étaient pâmées devant Johann Strauss-Fils et elles voulaient une mèche de cheveux. Et le majordome avait compris que si on donnait une mèche de cheveux de son maître, il serait partirait chauve. Et donc, il coupait délicatement des poils du chien, il les mettait dans une enveloppe parfumée et elle repartait avec une sorte de bonheur.
Comme si c'était les cheveux de Johann.
Voilà. Il faut se méfier des fétichismes.
Vous l'avez dit, Alain Duhaut, Johann fils, donc contrairement à son père, en fait, n'aime pas tellement la vie publique. C'est pas un homme de la scène.
Non, pas du
et
tout.
Et c'est d'ailleurs quand il va rencontrer son épouse qu'il va trouver une espèce de quiétude qui va lui permet de se retirer un peu, de se consacrer à la composition.
Hein. Il faut préciser, si vous voulez, dans la première partie de sa vie, parce qu'il voulait justement prendre la place de son père, il a dirigé beaucoup, partout, il a eu des bonnes fortunes un peu partout. Il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui dans le français quand on parle un burn-out, c'est-à-dire qu'un jour il s'est retrouvé contombé par terre, il avait une crise de nerfs, et à ce moment-là, eh bien, c'est là que il a fait venir son frère Joseph Strauss pour continuer à diriger l'orchestre, parce que c'était une PME les Strauss. Ouais. Ils vivaient de cet orchestre qui tournait partout dans Vienne. Et il y a une très jolie chose, c'est qu'ensuite, quand il a décidé de peut-être reprendre la direction d'orchestre, il n'était pas sûr. Il avait dit à son frère Joseph :« Je ne suis pas sûr que je pourrais diriger toujours. » Et donc l'orchestre a été baptisé Orchestre J. Strauss.
Puisque l'un s'appelait Joseph, c'était l'autre Johann, ça marchait toujours avec le J.
Et très vite, effectivement, vous avez raison de le souligner, il a profité de cet incident pour se retirer chez lui et pour composer, car ce qui l'intéressait, c'est la composition. Il a vraiment été très bien élevé par sa mère, qui lui a fait ensuite découvrir Liszt, Wagner. Enfin, c'est tout à fait étonnant, tout ce qu'il a pu découvrir.
Et son frère Joseph est donc lui aussi un très bon musicien, qui a écrit beaucoup de valses, de polka mazurka, qui va mourir relativement jeune, mais qui va donc diriger souvent les concerts de l'orchestre Strauss. Et ils ont écrit ensemble une œuvre.
Une pièce, la Pizzicato Polka, très célèbre, qui est une œuvre d'une grande finesse, d'une grande légèreté, avec sa fameuse technique du pizzicato où on pince les cordes des violons. Écoutons-la, ça sera mieux. Thank you.
Pizzicato Polka de J et J Strauss, Joseph et Johann, donc Alain Duhaut. Alors, on a dit Boskovski, bon, c'est le tenant de la tradition. Là, c'est Kleiber, c'est encore autre chose, c'est un peu celui qui domine.
Bah ça, les deux concerts du Nouvel An de 89 et de 92, voilà, dirigés par Kleiber, demeurent absolument les références absolues.
Lui-même tenait ça un peu de son père aussi, d'ailleurs, qui était un grand chef viennois,
bien sûr.
Kleiber.
Alors, enfin, quand même, qui a été une autre carrière. C'est le créateur de Wozzeck, par exemple. C'est un petit peu loin de Strauss.
Encore que
Schoenberg, c'est une autre école de Vienne.
Webern avait un certain goût pour la musique de Johann Strauss.
Webern a transcrit de nombreuses valses de Johann Strauss.
Bien entendu. Alors, on évoque trop rapidement, sans doute, mais quand même le passage de Johann Strauss à l'opérette, dans un deuxième temps de sa carrière, et un peu inattendu, parce qu'on a dit qu'au fond il n'était pas un personnage de la scène qui aimait beaucoup se montrer, il n'était pas théâtral de nature comme était par exemple Offenbach, et de la même façon il pensait pas du tout qu'il était fait pour mettre des paroles sur de la musique et pour faire du théâtre musical.
Vous avez raison, et il avait d'ailleurs cette expérience un peu douloureuse du Beau Danube Bleu avec les paroles qui n'avaient pas incité à mettre des paroles sur sa musique, mais il a été fortement poussé à la fois par sa femme et par son éditeur, et il a d'ailleurs longtemps composé des opérettes qui n'ont pas marché du tout. Qu'il les a épousées, toutes les premières n'ont pas marché, et puis évidemment quand il y a eu La Chauve-Souris, ça a été un vrai succès, mais pas un triomphe, parce que La Chauve-Souris est tombée à un mauvais moment, il y avait un krach boursier, enfin la situation générale à Vienne n'était pas très bonne, mais aussitôt ces événements, disons, historiques passés, ensuite, ça a été un vrai succès. Et c'est aujourd'hui aussi un des emblèmes. Mais on se disait tout de suite, il y a quelques instants hors micro, qu'on aimait l'un et l'autre le Baron Zigan. Et le Baron Zigan me semble peut-être une œuvre encore plus achevée, même si aujourd'hui on l'a un peu oublié.
Mais du vivant de Johann Strauss, le Baron Zigan avait eu à l'origine plus de succès,
La Chauve-Souris, en effet. Ouais. Mais bon, La Chauve-Souris demeure néanmoins, ne serait-ce que par l'ouverture ou par les airs, quelques-uns des airs, dont je crois on va entendre l'air d'Adèle, par exemple. L'air d'Adèle, c'est toute une histoire.
Alors, il faut quand même préciser que l'histoire de La Chauve-Souris, c'est ça qui est amusant aussi, c'est que c'est un aller-retour entre Paris et Vienne, qui sont les deux grandes villes de la musique légère. Paris, c'est plutôt la ville du théâtre avec Offenbach. Vienne, c'est plutôt la ville de la valse avec Johann Strauss.
Mais ça vient justement du théâtre, puisque la pièce Le Réveillon, c'est une pièce de théâtre, d'abord.
Voilà, de Meillac et Halévy.
Exactement. Les caisses qui ont fait le livret de Carmen, enfin, vous voyez comme tout cela est lié.
Voilà, et c'est donc un peu de l'esprit parisien que Strauss va sublimer donc dans cette opérette. Eh ben, on écoute pour le plaisir. Alors justement, ça vous dérange pas, Alain Duhaut, je dirais plus largement, vous qui êtes le grand spécialiste de l'opéra, je vais peut-être vous choquer beaucoup en vous disant que j'aime bien les versions traduites, moi, les versions en français de certains opéras et encore plus de certaines opérettes.
Oui, mais je pense que pour les opérettes c'est plus justifié parce qu'il faut véritablement tout comprendre, tandis que à l'opéra, la prosodie, la manière de lier le son de la langue au son de la musique est plus importante. Donc je pense que pour l'opéra, il faut avoir les versions originales. Pour les opérettes, il faut vraiment qu'on soit en contact avec le récit et il faut qu'il y ait cette vivacité du récit qui se manifeste aussi dans les mots.
Le sang et point la pince pour ses
m'a très regretté Liliane Berton, qui était une merveilleuse chanteuse d'opéra comique et d'opéra.
La clarté de l'aigu, la précision des vocalises, la netteté de l'articulation, c'est magnifique. Bravo.
Bon plaisir, Alain Bio, en aimant Liliane Berton. On termine pour ce qui est de la vie de Johann Strauss, fils. Bon, donc cette femme qui l'a protégé d'une certaine façon dans son travail.
Il faut préciser que c'était une ancienne chanteuse, donc elle était très proche de lui et pouvait lui donner des conseils. Elle était plus âgée que lui, donc il y avait une sorte de lien maternant qui se recréait. Et il avait besoin de cette douceur de vivre pour simplement composer, car c'est la seule chose qui l'intéressait.
Malheureusement, elle est morte avant lui, elle était plus âgée.
Elle est morte tragiquement.
Il a eu quelques années d'errance amoureuse, d'expérience diverses et variées.
Une erreur qui s'appelait Angelica, qui était une jeune femme. Un joli article disait que elle avait peu de talent, mais elle avait suffisamment à montrer pour pouvoir s'en passer.
C'est ça.
Et puis ensuite,
il retrouve finalement une complice.
Alors, une complice, mais cette fois, c'est différent, puisque c'est lui qui a la position du père. Elle a 37 ans de moins que lui. Mais elle s'appelle, c'est quand même extraordinaire, Adèle Strauss. C'est une jeune veuve. Elle a 26 ans. Et elle était mariée à Monsieur Strauss, qui meurt. Elle se retrouve donc veuve. Et elle porte le prénom de ce personnage qu'on vient d'entendre dans sa version française d'Arlette, mais c'est Adèle dans La Chauve-souris, donc il y a quand même une espèce de coup du destin, et elle va lui faire une vie idéale pour les dernières années, et pendant lesquelles il va composer quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre, dont la Valse de l'Empereur, qui est aussi un de ses chefs-d'œuvre.
Voilà, et alors ce qui est assez fascinant, c'est que ce musicien tellement doué qu'était Johann Strauss, mais qui s'est consacré à un petit genre, qui est la valse, il en a fait quelque chose de tellement extraordinaire qu'il a subjugué les plus grands musiciens de son temps. Et on voit dans ces dernières années que dans ses proches complices et amis et admirateurs figurent notamment Brahms et Bruckner. Quand même.
Ça, c'est très étonnant. Il faut dire qu'il y avait d'abord Wagner qui avait écrit des choses magnifiques sur lui.
Et d'ailleurs,
qu'il avait l'esprit le plus musical de notre époque.
Il a créé lui-même comme chef d'orchestre Tristan.
Pas la version complète. En 1861, il crée à Vienne
Johann
Strauss, fils, il crée toute une série d'extraits de Tristan qui sera créé complètement 4 ans plus tard à Munich. Mais ça montre le rapport qu'il avait. Il a aussi créé un certain nombre de pièces de Liszt, dont le poème Mazeppa, qu'il a créé en entier donc à Vienne. Et il se lie d'amitié avec Johannes Brahms, qui est déjà surprenant parce qu'on connaît la réputation d'ours de Brahms. Et puis on peut voir, disons, des rapports musicaux, puisqu'il y a des valses de Brahms, mais c'est plus surprenant avec Bruckner. Et Anton Bruckner va être un ami de ces dernières années. Il va venir jouer au billard avec lui dans la maison qu'ils avaient à Yatzing. Et c'est tout à fait étonnant parce que la femme, Adèle, la dernière femme de Johann Strauss, à propos de Brahms, dira « Ils pouvaient passer des après-midi côte à côte, ensemble, sans rien se dire. » Et je trouve que c'est magnifique parce que c'est ce qui montre une belle amitié. Quand on peut être ensemble sans rien se dire, sans avoir besoin de remplir le silence, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire.
En tout cas, Alain Duhaut, les auditeurs l'auront compris, si vous n'avez encore rien à lire pendant les vacances, vous prenez Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse. On se laisse porter comme dans un roman sur cette Vienne du 19e siècle.
Et Alain... il faut espérer que ça donne envie d'écouter.
Ah, bah, ça donne envie d'écouter,
déjà
bien sûr.
Le 1er janvier, mais tout le reste de l'année.
Et on va terminer cette émission, Alain, avec deux ou trois morceaux encore, puisque vos goûts pour la musique légère ou l'opéra léger ne se limitent pas à Johann Strauss,
loin de là.
On pourrait par exemple écouter tout de suite, et puis on en reparlera après, mais dites-nous juste un petit mot d'introduction, cette valse, alors pour le coup, du concurrent ou de l'ami concurrent qui était Offenbach.
En tout cas, pas du rival, mais du concurrent. C'est une valse chantée tirée d'un opéra comique d'Offenbach qui s'appelle Robinson Crusoe, qui date, je crois, de 1867. Ouais. Et cette valse chantée, la valse d'Edwige, est véritablement une pièce qu'on aurait pu trouver sous la plume de Johann Strauss fils.
Et comme par hasard, vous avez choisi Nathalie Dessay. Enfin, remarquez, c'est peut-être la seule qui l'ait enregistrée.
Non, il y a John Sutherland l'a enregistrée aussi. Mais Nathalie Dessay, c'est tout à fait bien. N'oubliez pas qu'elle a été une année en troupe à l'Opéra de Vienne.
Thank you.
magnifique Nathalie Dessay dans Robinson Crusoe, un opéra comique, hein, pas opéra bouffe, de Jacques Offenbach.
Une belle valse composée par Offenbach, cette valse d'Edwige, une vraie valse bien composée. Je pense que si c'est Johann Strauss qui l'avait composée, il aurait enlevé les chœurs, qui à mon avis sont un tout petit peu superfétatoires.
Voilà, donc Alain Duhaut, en tout cas, bon, profitons-en, on est ici dans l'émission qui défend l'opérette au sens large, incluant bien sûr l'opéra bouffe. Et vous, dans votre cœur, ce genre, quelle place il
Il y a une grande place, vous savez. Je vous ai
en
dit,
dehors de Johann Strauss.
Oui, mais je vous ai dit ma passion pour le Fernandel de ses débuts. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'aime beaucoup Léard, mais sa dernière pièce, Giulietta, par exemple, est une pièce que j'aime.
Une opérette romantique, pour le
coup. Totalement une opérette romantique, c'est la dernière, hein, 1934. J'aime aussi beaucoup Heinrich Kallmann, compositeur hongrois, la comtesse Maritza, il y a une Chardas tout à fait extraordinaire. Et puis, il y a quelques jolies surprises dans l'opérette française. J'adore le Petit Duc.
De Lecoq.
Malheureusement, jamais donné. Il y a aussi simplement des petits bijoux. Par exemple, dans la mascotte d'Edmond Houdran, il y a le duo des dindons.
Et des moutons.
Et des moutons que je trouve irrésistibles.
Que j'ai passé la semaine dernière et des auditeurs m'ont écrit « Mais qu'est-ce que c'est que ce duo des dindons et des moutons ?» Donnez-nous les références.
Ça, je trouve ça irrésistible. Non, il y a beaucoup de trésors. Et heureusement qu'on peut, de temps en temps, s'aérer l'esprit.
Vous n'avez pas le sentiment quand même que chez les Viennois, bien que l'opérette viennoise soit née après l'opérette française, il y a une tradition qui s'est mieux maintenue et les grands interprètes, les grands chanteurs, à commencer par Schwarzkopf ou d'autres, ont continué à chanter au mieux ce répertoire, alors qu'en France, il y a eu un certain abandon par le grand monde lyrique du répertoire léger.
C'est pas un abandon, c'est un mépris, et c'est ça qui est grave. Que en France, il ne fait pas bon, si on veut paraître sérieux, dire qu'on aime l'opérette ou la musique légère, comme si l'autre était lourde, selon la fameuse expression. Mais tandis que quand vous êtes à Vienne, d'abord, tous les ans, le 31 décembre, on donne au Staatsoper l'opéra de Vienne, la chauve-souris. Et il y a toujours, au milieu, des stars qui viennent chanter un extrait parce que c'est une manière de faire une revue. J'étais il y a 3 ans, il y avait tout d'un coup Netrebko qui est arrivé avec Thomas Sampson, ils ont chanté 2 airs. Donc il y a cette manière d'intégrer aussi toutes les grandes stars de l'opéra dans l'opérette parce que ça fait partie d'une culture générale. On n'est pas sectorisé, vous savez, vous vous êtes suffisamment battu contre cela, Benoît Dutertre, qu'on est dans un monde français qui est très sectorisé.
Les gens étiquettes.
Dans les boîtes. Et voilà, si vous aimez l'opéra, vous pouvez pas aimer l'opérette. Si vous aimez le roman, la poésie, vous êtes étrangère, etc. Donc, là, la différence est à Vienne. On aime toutes les musiques partout. Et les gens ont l'esprit musical. C'est bien ce qu'on voit dans cet opéra, quand même, l'opéra de Vienne, qui joue tous les soirs, et qui est toujours plein, avec ces fameuses places à 3,50 € qui permettent aux gens de ne pas ruiner leur famille quand ils viennent voir des opéras plusieurs fois. Il y a cette possibilité de mettre en rapport le léger et le sérieux sans que l'un soit meilleur que l'autre, soit plus important que l'autre. Il n'y a pas de hiérarchisation. Alors, peut-être que ça changera, on ne sait pas, les évolutions politiques récentes nous disent qu'on peut s'inquiéter, peut-être. Mais en tout cas, pas pour la culture. La culture viennoise, elle n'est pas hiérarchisée. C'est ce qui fait ce plaisir, ce tourbillon, ce qui fait qu'on aime être à Vienne.
Et pour vous faire plaisir, alors Alain Duhaut, un peu justement de Franz Léard, immense compositeur, vous le mettez presque au sommet de l'opérette viennoise.
Énormément. Je trouve que pas seulement La Veuve Joyeuse, j'adore Giulietta je les aime toutes.
Et Paganini par Paganini. Kaufmann, ça vous irait?
Oui, ça c'est très bien. En plus, l'histoire est extraordinaire. Les amours de Paganini, le violoniste, avec Elisa Bonaparte, c'est quand même une histoire extraordinaire. Et là, Jonas Kaufmann a fait vraiment beaucoup pour l'opérette viennoise avec son disque, dont on va entendre, j'imagine, le fameux air créé pour Richard Tauber.
Gern hab ich die Frauen geküsst, hab nie gefragt, ob es gestattet ist, dachte mir, so sind sie hier.
in der wahrhaften Liebe glut. Ich weiß, wie weh oft die Falschheit tut. Ich kenn die Wunden begonnen mit Freud. Ich sah ihr wenden und enden mit Leid. Ich kenn die Liebe in Dur und Moll. Ich kenn sie selig, verrückt und toll. Ich schaue
Jonas Kaufmann dans Paganini de Franz Lehár. Ça donne envie aussi de réécouter effectivement Tauber Wunderlich, mais il est tout à fait à la hauteur, Kaufmann.
Non, mais vous parliez tout à l'heure justement des chanteurs d'opéra, et c'est vraiment un grand chanteur d'opéra, Jonas Kaufmann. Et là, il montre qu'il n'y a aucun problème à chanter de l'opéra de Vienne, et il n'a pas l'impression de déchoir.
Alain Duhaut, dans votre vie aujourd'hui, alors la poésie, c'est quoi? C'est de 7h à 10h matin et la musique en journée, non?
Non, la poésie, c'est pas à Paris. Oui. Je partage ma vie entre Paris, parce que bon, voilà, on est obligé d'être à Paris, mais la province, c'est une maison en Anjou, et c'est là que ça se passe. Oui, il faut qu'il y ait du calme autour.
Il faut qu'il y ait du calme autour, et peut-être ne faire que ça quand vous faites ça.
Que ça.
Voilà. Alors, je recommande beaucoup aux lecteurs Où vont nos nuits perdues et autres poèmes dans la collection Poésie Gallimard, parmi d'autres, mais celui-là est évidemment très facile à dénicher chez les bons libraires. Et puis, je recommande aussi donc vos différents livres, Alain Duhaut, où il est question un peu d'opérette, d'opéra comique, de musique légère, en dehors du Strauss dont nous parlions ce matin. Il y a votre dictionnaire amoureux de l'opéra, bien sûr, avec une grande entrée au Offenbach.
Oui, bien sûr, dans l'édition complète de 1185 pages.
Mais vous avez fait aussi une édition illustrée, ça c'est beaucoup plus rare dans la collection des dictionnaires amoureux, avec le choix de quelques articles et de très belles illustrations.
Voilà, mais ça donne aussi la possibilité de voir, et pas seulement de lire, et de se rendre compte que l'opéra est aussi un art visuel.
C'est un art visuel, voilà. Vous irez voir le Contori ces jours-ci,
évidemment,
à l'Opéra Comique.
Avec Julie Fuchs, Gaël Arquez, Philippe Talbot, la fine fleur de la génération des nouveaux chanteurs français.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. On va se quitter encore avec une grande valse de Johann Strauss fils, Les Mille et Une Nuits, dirigée par Carlos Kleiber, extraite de l'opérette Indigo et les 40 voleurs.
Première qui a eu un petit succès. Bien avant la chauve-souris.
Et merci en tout cas d'avoir écrit ce livre qui nous donne envie toujours de réentendre cette musique.
Et à bientôt, donc, puisqu'on vous entend le 1er janvier. Ça, je ne manquerai ça pour rien au monde.
Voilà, avec Riccardo Muti cette année. À bientôt, Alain Duhaut.
Merci. Thank you.
Les Mille et Une Nuits, valse opus 346 de Johann Strauss, interprété en 1992 par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Carlos Kleiber. Et si donc vous voulez en savoir davantage sur la famille Strauss, eh bien évidemment vous lisez le livre d'Alain Duhaut, Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puisqu'il nous reste quelques minutes avant de nous quitter, et puisque vous êtes en train tous de chercher des idées pour les cadeaux de Noël, eh bien je ne peux que vous recommander le merveilleux livre qui vient de paraître de Sempé, ça s'appelle Musique, ça reprend tous les dessins les plus célèbres sur la musique de Sempé, mais aussi des raretés, des inédits, tout cela ponctué d'entretiens avec Marc Le Carpentier, où Sempé nous parle de tous les musiciens qu'il aime, de Duke Ellington, de Ravel, de Mireille, de Ray Ventura, et tiens, bah pour lui faire plaisir, on va prendre une chanson de Mireille et Jean Nohain, chanté par l'orchestre de Ray Ventura, c'était en 1935.
Raconte des histoires de vicomte.
Quand une marquise rencontre une autre marquise, qu'est-ce qu'elles se disent? Des histoires de marquise. Ah, quand un cul-de-jatte rencontre un autre cul-de-jatte, qu'est-ce qu'ils débattent? Des histoires de cul-de-jatte.
Chacun sur terre se fout.
En fin de compte, ce qui compte surtout, c'est nous.
Chacun sur terre se fout, se fout. Des petites misères de son voisin du dessous.
Quand une bigote rencontre une autre bigote, qu'est-ce qu'elle chuchote? Des histoires de bigote. Quand un gendarme rencontre un autre gendarme, qu'est-ce qui les charme? Des histoires de gendarmes.
Ah, quand une vieille tante rencontre une autre vieille tante, qu'est-ce qui les tente? Des histoires de petites tantes.
Chacun sur terre se fout, se fout. Des petites misères de son voisin du dessous. Nos petites affaires à nous, à nous. Nos petites affaires, c'est ce qui passe avant tout.
Quand je vois qu'une égonde, nous ne parlons de rien au monde que d'elle et de nous deux.
Chacun sur terre se fout, se fout. Des petites misères de son voisin du dessous.
Quand un vicomte rencontre une autre marquise, qu'est-ce qu'ils discutent? Des histoires de sardines. Quand une belote rencontre un autre fromage, qu'est-ce qu'ils débitent? Des histoires de pendule.
Un petit bijou de Mireille et Jean Nohain, interprété par l'orchestre de Ray Ventura. C'était pour saluer Sempé, dont le bel album Musique vient de paraître aux éditions de Noël, avec ses plus beaux dessins sur la musique et les musiciens. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Delphine Baudet, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, ne ratez pas l'émission, on fêtera les 100 ans de Suzy Delair avec une émission spéciale qui lui sera entièrement consacrée. D'ici là, bon Noël à tous. Et sur France Musique, vous avez maintenant rendez-vous avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.